Chapitre 3. Les services d'espionnage et de contre-espionnage constituent un monde à part dont le recrutement échappe aux règles de la société civile et militaire. On y rencontre des officiers, des politiques, des faussaires, mais aussi des linguistes, des acteurs, des prostituées et des bricoleurs de génie. Même au cœur de Berlin en 1942, le quartier général de l'Abwehr, sous les ordres de l'amiral Canaris, se situait à la périphérie de l'État. On y trouvait par exemple le critique d'art Martin Wurtz. Celui-ci n'avait jamais participé à une des grandes messes du Führer, dont il était pourtant un camarade d'enfance. Né à Linz, en Autriche, 10 minutes après sa sœur Jutta, il était entré à l'Abwehr sur la recommandation pressante d'Adolf Hitler en personne. À première vue, pourtant, tout désignait Martin pour le front russe, le peloton d'exécution ou les camps de concentration. Dès 1919, il avait alors 29 ans, il avait été arrêté lors d'une rafle de police dans les tripots interlopes, à une époque où l'Allemagne était encore libérale. Discrète dans les années 20, la répression contre le milieu homosexuel, qui était le sien, allait s'intensifier quand le Führer prendrait le pouvoir. Les clubs furent fermés, la presse spécialisée interdite, les bibliothèques épurées. Un nouveau code pénal vit le jour. Malgré cela, Martin Wurtz restait intouchable. En juin 1934, quand Ernst Röhm et ses hommes, soupçonnés de mauvaises mœurs, furent arrêtés et exécutés, le Führer expédia Wurtz en Argentine, où il resta jusqu'au début de la guerre, à l'exception de quelques semaines à Berlin de temps à autre. En 1936, notamment. Par précaution, Hitler garda sa sœur jumelle en otage. Quand Martin revint définitivement en Allemagne en 1939, ce fut pour constater que Jutta était en Asie. Le hasard faisant bien les choses, Wurtz se vit confier en mai 1941 le dossier indien, c'est-à-dire la surveillance de Subhas Chandra Bose. L'État nazi n'était pas un monolithe. Le Reichsführer des SS, Heinrich Himmler, responsable de la police secrète, essaya de compromettre Martin Wurtz, mais ne réussit même pas à découvrir pourquoi Hitler protégeait l'ancien critique d'art. Certes, le chef de toutes les polices savait que les deux hommes se connaissaient bien, puisqu'ils avaient vécu à Linz dans la même rue au début du siècle. Himmler n'ignorait pas, par ailleurs, que le Führer aimait peu les femmes, et qu'il avait à plusieurs reprises montré une indulgence coupable envers les pervers, à commencer par Röhm et ses mignons, dont il fallut bien se débarrasser lors de la nuit des longs couteaux. Aucune hypothèse n'était à exclure. Himmler préféra retenir la plus facile. Martin avait été l'un des rares critiques à louer les talents artistiques d'Adolf Hitler. Et c'est peut-être pourquoi Wurtz, devenu fonctionnaire à l'Abwehr, restait en 1942 l'un des derniers protégés du Führer. L'Inde n'était pas une priorité pour le Troisième Reich. Quand Subhas Chandra Bose arriva à Berlin en 1941, l'Allemagne n'avait aucune visée sur ce pays lointain, mais puisque la victoire finale n'était qu'une question de temps, il fallait déjà préparer l'avenir. L'Allemagne se féliciterait un jour, sans aucun doute, d'avoir su accueillir Bose, lequel deviendrait, quand l'heure serait venue, le premier gouverneur général de l'Inde nouvelle, un gouverneur général à la botte. Avec la protection de Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, et la bénédiction de Hitler, le nationaliste indien put obtenir presque tout ce qu'il souhaitait. Dès décembre 1941, la radio de l'Inde indépendante, l'Azad Hind Radio, commençait à émettre. Surveiller Bose était une tâche de tous les instants, comme Martin Wurtz allait le constater, car l'Indien ne tenait pas en place. Armé de tous les documents officiels, considéré dans les faits comme un véritable homme d'État, il sillonnait l'Allemagne, visitait les camps de ses troupes, rentrait à Berlin enregistrer une émission de radio, puis sautait dans un avion pour aller saluer à Rome le comte Ciano, le ministre italien des Affaires étrangères, ou le duce Mussolini. Les renseignements parvenus d'Inde précisaient que Bose, à l'image de Gandhi, avait fait vœu de chasteté, veut qu'il ne romprait, disait-il, que le jour béni où l'Inde serait enfin libérée. En réalité, la chasteté de Bose était, comme celle de Gandhi, à géométrie variable. Totale en Inde, elle s'avérait plus discrète en Europe, puisqu'il s'était marié en secret avec une belle Autrichienne, Émilie Schenkel, laquelle avait été sa secrétaire à Vienne au début des années 30. Bose, comme le Führer, était timide avec les femmes. Mais là s'arrêtait la ressemblance. Hygiéniste fanatique, Adolf Hitler haïssait le tabac, buvait de l'eau minérale et était végétarien. Bose, au contraire, était un fumeur invétéré, appréciait les bons vins et mangeait du bœuf. Excellent cuisinier, le Bengali passait ses rares moments de loisirs devant ses casseroles. Certains Allemands s'étaient d'abord demandé s'ils ne travaillaient pas pour les Anglais, car Bose appartenait, après tout, à une famille très anglophile. Ancien étudiant à Cambridge, passionné de philosophie, il parlait et écrivait anglais presque aussi bien que Nehru. À la fin des années 30, il s'était rendu à Londres pour y rencontrer des hommes aussi connus que Clement Attlee, le chef des travaillistes, ou l'ancien vice-roi des Indes, Lord Halifax. Il est vrai qu'il fréquentait aussi, disait-on, l'ambassadeur d'Allemagne. Pour Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, aucun doute n'était permis. Cet Indien tombé du ciel était bien un ennemi de l'Angleterre. Un document attestait qu'il avait même jadis passé à tabac un de ses professeurs anglais à l'université de Calcutta. Après avoir brillé au difficile concours d'entrée de l'Indian Civil Service, la haute fonction publique coloniale, il s'était signalé par une démission spectaculaire quelques mois plus tard. Avait suivi de longs mois d'incarcération, dont 2 années dans les prisons de Birmanie, qui était alors une des provinces de l'Inde. Le Führer se rangea à l'avis de son ministre et accepta de recevoir Bose le 29 mai. Persuadé d'être entouré de traîtres, Hitler tissait autour de lui un réseau serré d'informateurs. Tout le monde surveillait tout le monde. Les fiches secrètes et les dossiers confidentiels s'accumulaient dans les bureaux, chacun étant ainsi persuadé de détenir des informations capitales qu'il conviendrait au bon moment d'exhumer des archives afin de monter d'un cran dans la hiérarchie de l'État. Officiellement, Subhas Chandra Bose dépendait du Bureau spécial des affaires indiennes, le Sonderreferat Indien, lequel était rattaché aux affaires étrangères. Mais Canaris, le chef du contre-espionnage, qui justement cherchait à noyauter le monde politique indien, faisait aussi surveiller le leader nationaliste, dont les activités, les propos, les émissions de radio, les coups de téléphone et les déplacements étaient en permanence scrutés et analysés par Martin Wurtz. Ce qui n'empêchait pas Himmler et ses SS de surveiller à la fois Bose, Canaris, Wurtz et les autres. Dans cette constante lutte pour le pouvoir, qu'entraîne toute administration, chacun jouait sa propre carte. Martin le savait, Hitler et Canaris pouvaient à tout moment lui retirer leur confiance. Et il passerait alors à la trappe, comme des milliers d'autres avant lui. La trappe qui s'ouvrirait quand les SS, après l'avoir torturé pour lui faire avouer ce qu'il ignorait, lui auraient passé la corde au cou. Depuis des mois, Martin savait que ses jours étaient comptés. Il fallait fuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour cela, des documents officiels étaient nécessaires. Par chance, si l'on peut dire, ses parents avaient été tués lors du bombardement de Bâle, où ils fêtaient leurs noces d'argent. De son côté, sa sœur Jutta ne donnait plus de nouvelles depuis 2 ans. Personne ne le retenait donc plus en Allemagne. Fuir n'était plus qu'une question d'organisation. La Valette, Malte. Le message du colonel Barnes était clair. Il fallait organiser dans les semaines à venir le transfert de 2 personnes pour l'Italie. Pour Phyllis O'Brien, l'agent de Paternoster dans l'île, la mission semblait impossible. Malte, maillon essentiel entre Gibraltar et Alexandrie, et seul bastion britannique de la Méditerranée avec Chypre, croulait sous le poids des bombardements. On comptait déjà ce mois-ci 282 raids aériens sur l'île, 7 de plus que le mois précédent, qui constituait déjà un record. Le mois de mai ne s'annonçait guère mieux. puisque 13 personnes venaient d'être tuées par une bombe. Les guerres modernes se jouent à la fois sur le front militaire, où de jeunes hommes, simples chairs à canon, perdent la vie au nom d'intérêts supérieurs qu'ils ne connaîtront jamais, sur le front psychologique, où quelques spécialistes essaient d'affaiblir l'ennemi par la manipulation et le mensonge, et sur le front politique, dans les corridors du pouvoir. Quelques semaines plus tôt, Sa Majesté George VI avait attribué à l'île de Malte la George Cross pour son héroïsme. Touchante attention, même si les Maltais auraient préféré des patates et des Spitfire. Décorée ou pas, l'île manquait de tout. Il n'y avait presque rien à manger, les forces britanniques étaient à court de munitions, et tout indiquait que les Allemands et les Italiens préparaient une invasion. Les plus optimistes estimaient que celle-ci interviendrait au cours de l'été 1942. En attendant, ordre avait été donné de ne répliquer que par des tirs symboliques aux attaques de la Luftwaffe. Imaginez dans ces conditions que l'Italie était à portée d'avions de Malte, montrait la distance qui séparait les hommes de terrain et les ronds de cuir. Tout juste pouvait-on imaginer qu'un Spitfire ou un Hurricane aurait peut-être assez de chance, par tant de brouillard, pour survoler un court instant les côtes siciliennes. Un parachutage était possible, mais une fois à terre, les Anglais venus du ciel avaient toutes les chances d'être capturés et abattus. Cependant, les ordres de Paternoster étaient formels et avaient été confirmés par le nouveau gouverneur, le général Gort, qui venait de débarquer à Malte en hydravion. Phyllis O'Brien irait donc voir Giorgio Pisani, son vieil ami pêcheur à Marsark Lock. S'il y avait une chance sur mille pour monter une opération par mer, Pisani saurait la trouver. Rome. En 1942, le Vatican semblait plus que jamais un îlot coupé du monde. Alors que l'Italie fasciste s'était alliée au Troisième Reich et que ses soldats participaient au combat de Cyrénaïque aux côtés des Allemands, le plus petit État du monde, ancré dans un continent devenu fou, jouissait d'une paix absolue sous la protection de zouaves pontificaux armés de halbardes. La vie quotidienne s'y poursuivait comme à l'accoutumée. L'imprimerie vaticane tournait à plein régime et éditait chaque jour, en des dizaines de langues, des documents sur la Vierge, le Saint-Esprit et le sexe des anges. L'Europe était à feu et à sang, mais l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican, parlait de droit canon. Les collectionneurs de timbres se pressaient comme au plus beau jour. Sur les 2000 personnes qui, à des titres divers, travaillaient alors pour le Vatican, moins de 400 pouvaient se flatter de leur citoyenneté vaticane. Et encore, celle-ci n'était-elle que provisoire, puisque liée à une mission bien définie. L'élite de l'élite était constituée par les titulaires du passeport aux armes du Vatican, lequel assure une immunité absolue dans presque tous les pays du monde. Le rôle joué par ce corps diplomatique ne fut sans doute jamais aussi important que durant ces années 1939-1942, car le nouveau pape, Pie XII, avait lui-même été nonce apostolique à Berlin. Faute de place, la plupart des représentants du Saint-Siège sont contraints de vivre à l'étranger, c'est-à-dire à Rome. C'était le cas, en cette année 1942, de Mgr Luigi Borghese, éminence grise du secrétaire d'État, qui vivait à quelques encablures du Colisée, dans une demeure Renaissance, où le pape Jules III, au XVIe siècle, se plaisait à organiser des soirées en vérité peu catholiques. En ce matin de mai 1942, Adrian Foster, le second secrétaire de l'ambassade d'Irlande au Saint-Siège, pénétra par une porte dérobée dans la résidence de Mgr Borghese. Bien que né en Irlande du Sud, il était anglais par son père et s'était découvert, dès le début de la guerre, plus proche de Londres que de Dublin. La neutralité lui semblait indéfendable alors que le Führer voulait asservir l'Europe. Il avait donc accepté, sans déchirement, de travailler pour Paternoster. Connaissant Borghese depuis le début des années 30, l'Irlandais était en relation quasi quotidienne avec lui. Le café, servi par une religieuse colombienne, était du vrai café, accompagné malgré l'heure matinale d'un doigt de cognac. Foster sortit un paquet de Players de sa poche et le tendit au vieux prêtre qu'il savait être un gros fumeur. Sans être des amis intimes, les deux hommes s'appelaient par leur prénom. « J'ai besoin de votre aide, Luigi. Tout cela, bien sûr, doit rester entre nous. » Le prélat expira une longue bouffée de cigarette. « Je suis une tombe, mon cher, vous le savez bien. Secret de la confession. » Foster eut un sourire. Catholique de naissance, comme d'autres sont rouquins ou blonds, il considérait toute religion comme une imposture. « Voilà, reprit-il, vous savez que l'Inde est la pièce maîtresse de l'Empire britannique. Or, des milliers d'Indiens sont actuellement prisonniers en Italie et en Allemagne. » Borghese acquiesça. « Le nom de Bose ne vous dit rien, j'imagine, » poursuivit Foster. « C'est un homme politique indien, très connu là-bas, qui s'est mis en tête de créer ici même, en Europe, une armée de libération, avec tous ses prisonniers indiens. Il s'est installé à Berlin avec la bénédiction de Hitler. « Les Allemands me surprendront toujours, Adrian. Je les croyais xénophobes, et les voilà, me dites-vous, prêts à aider les Orientaux. » Foster secoua la tête. « Oh, ils se fichent bien de l'Inde, mais ça les arrange de nous affaiblir. » L'Angleterre serait dans un sacré pétrin si les parachutistes débarquaient à Delhi ou à Calcutta. Monseigneur Borghese se servit une nouvelle rasade de cognac. « Voilà ce que c'est de vouloir conquérir le monde, » murmura-t-il comme s'il se parlait à lui-même. « Que vient faire le Vatican dans tout cela ? Je n'ai que des gardes suisses à vous proposer. » L'Irlandais hocha la tête. « Un de vos diplomates d'origine indienne, Mario da Silva, vient de mourir au Caire, mais je vous rassure, il s'est déjà réincarné. » « Je ne vous suis pas, Adrian. Vous me prenez au saut du lit. » Or, plus je vieillis, et plus j'ai du mal à comprendre les choses au chant du coq. Disons que Winston Churchill a eu une idée farfelue. Quelqu'un va prendre l'identité de da Silva. Nous allons le faire venir ici à Rome, et de là il gagnera l'Allemagne avec l'immunité diplomatique. Borghese secoua la tête. J'ai toujours pensé que les Irlandais étaient fous, mais les Anglais, eux, sont vraiment dérangés. Bon, poursuivez votre passionnante fiction. Qu'ira faire à Berlin notre regretté da Silva ? Foster eut un large sourire. Mission pastorale. La plupart des soldats indiens enrôlés par les Allemands sont hindous, bien entendu. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas d'église hindoue, et donc pas de représentant de l'hindouisme. Curieuse religion, commenta Borghese. Une religion sans pouvoir, ça ne fait pas très sérieux. Il y a quelques soldats indiens catholiques au milieu de ces infidèles, poursuivit Foster. Très fervent, j'en suis persuadé. C'est ici que le Vatican peut intervenir. Ces catholiques de la Légion Bose auraient besoin d'une aide morale et spirituelle. Le prélat alluma une nouvelle cigarette. Je suis touché d'apprendre qu'un parpaillot comme Churchill s'intéresse à la vie spirituelle des soldats catholiques indiens. C'est une première. Venons-en au fait, Adrian. Quelle sera la vraie mission de cet agent anglais infiltré en Allemagne ? Éliminer Bose pour sauver l'Empire. Le prêtre éclata d'un grand rire. Rien que cela. Les Anglais ont perdu la raison. Je puis vous assurer que Pie XII ne donnera jamais sa bénédiction à un projet aussi stupide. Berner les Allemands mettrait le Vatican dans une situation intenable. La réaction du Hitler, qui est catholique, ne l'oubliez pas, serait un arrêt de mort pour notre diplomatie. Sa sainteté n'exclut déjà pas un coup de force allemand contre le Vatican. Avec votre histoire à dormir debout, les panzers ne vont pas tarder à raser Saint-Pierre. Vous êtes fou, Adrian. Foster ne s'avoua pas vaincu. Rassurez-vous, Luigi. Churchill entend bien préserver la virginité politique du Vatican. Soyons concrets. Il nous faut des papiers. Londres, bien sûr, peut fabriquer tous les faux nécessaires. Les faussaires de Londres sont de vrais génies. Cela dit, les faux sont toujours meilleurs quand ils sont vrais. Nous avons besoin de papiers en tête, d'ordre de mission, que sais-je. Les Allemands n'y verront que du feu. Mais si d'aventure ils découvraient le poteau rose, il ne vous resterait plus, Luigi, qu'à jouer les vierges outragées. Faites-vous soigner, Adrian. Pourquoi prenez-vous toujours les Allemands pour des crétins ? Par ailleurs, continua Foster, Il nous faut un véhicule du corps diplomatique. Vous me direz comment en voler un. Pour vous couvrir, vous irez déposer une plainte auprès de la police italienne. Sans hâte excessive, tout de même. » Monseigneur Borghese se leva d'un bond. « Assez, Adrian, j'en ai trop entendu. Le Vatican ne sera jamais complice d'un meurtre. »« Vraiment ? Ne dites pas cela à un historien sérieux. Il vous rira au nez. » Un mot encore, s'il vous plaît. Mon gouvernement n'ignore pas que le Vatican a de gros frais. Eh bien, disons qu'un généreux donateur anglo-saxon, anonyme, cela va sans dire, livrera, quelques jours après l'armistice, 1 million de livres sterling en lingots d'or dans une banque que vous aurez choisie. À Genève, par exemple, ou à Paramaribo. Je vous remettrai une lettre signée de Churchill, à garder en lieu sûr. 1 million de livres en lingots d'or. Le prélat resta silencieux quelques instants. Pie XII, je le répète, sera contre. Eh bien, ne lui en dites rien. En somme, vous me demandez des faux. Pour faire bonne mesure, vous y ajoutez une complicité de vol et une complicité de meurtre. À tout péché, miséricorde, mon cher Luigi. Et puis, pensez-y à deux fois. 1 million de livres, ça vous vaudra une belle promotion. Quand les canons se seront tus.